Yann et Frank est fier de s'associer à l'entreprise québécoise RangeBrand.ca, le brand numéro 1 de vêtements western au Canada. Si t'es à la recherche de vêtements de qualité disponibles dans toutes les tailles et qui vont se démarquer par un look incroyable et original, viens faire un tour sur RangeBrand.ca. Casquettes, t-shirts, hommes et femmes, hoodies, camisoles, montres et une foule d'accessoires sont disponibles. Livraison gratuite avec une commande de 99$ et plus. RangeBrand.ca.
Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, un invité, on vous en a parlé, qu'on préparait de quoi tranquillement avec un adversaire idéologique, entre guillemets, qui a généreusement accepté l'invitation. C'est Frédéric Bérard, qui en plus profite de l'occasion pour lancer un livre. Donc, on va faire le tour de tout ça. Frank a pris le temps de le lire très récemment. On devrait avoir une discussion quand même pas pire, je pense.
Écoute, bon. Frédéric, on essaie d'avoir comme éthique dans le podcast de ne pas inviter les gens sans lire leur livre. Fait que moi, j'ai appris l'existence du livre. Ouais, c'est ça. C'est quand même, tu vois, en 2024, juste pour te différencier des autres, tu peux lire le livre, ça fait quelque chose que personne d'autre fait.
Ça existe, ça.
Non, c'est ça. C'est, je m'en suis rendu compte assez rapidement, honnêtement. Et c'est ça, fait que je suis allé Renaud Bré. C'est très facile, les gens, vous pouvez le trouver en librairie, mais sinon, il y a le code au bas de l'écran. Ça s'appelle « On nous tuera doucement, chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales ». Puis là, ça tombe bien, c'est ça que tu sortes le bouquin. Puis, c'est ça, on précise que tu avais quand même déjà accepté l'invitation avant. Ben toi, tu savais que tu allais faire un livre, là. Moi, je ne le savais pas, honnêtement. Mais l'élément déclencheur, mettons qu'on remonte dans le temps, c'est que nous, on a fait, c'est quoi, Yann? C'est en début janvier qu'on a fait ça, ou décembre, je me souviens plus.
Janvier,
on a enregistré un podcast avec Mathieu Bocoté. Parce que bon, on reçoit plein de monde, on invite plein de monde. Pas tout le monde accepte. Il y a beaucoup de gens. On attend encore la réponse du chef du PQ, là. Il ne veut pas nous parler. Il va faire sécession de l'Empire britannique, mais il ne peut pas venir dans notre podcast. On a reçu Mathieu Bocoté, puis je pense que quelqu'un avait commenté notre entrevue, puis toi, tu avais comme retweeter ça ou repartager ça. Je me souviens plus quel commentaire tu avais fait. Là. Puis Yann, tu avais écrit en dessous « Est-ce que tu veux venir nous parler? » Puis dans ton livre, tu as quand même quelques textes là, dédiés où tu parles de Mathieu Bocoté puis tu parles de finalement là, la genre ce que toi tu appellerais peut-être une dérive identitaire du mouvement souverainiste. T'sais. Tu parles aussi dans le livre de du Bloc québécois, que tu dis, bon, ben dans le temps de Duceppe, Bouchard, on les imaginerait pas faire les niaiseries qui font aujourd'hui, entre autres dans certaines publicités ou dans certains slogans, des discours qui tournent un peu à des fois à des propos un peu étranges sur les immigrants, les musulmans, tout ça. Puis là, on s'est dit, ben on a eu l'endos de la médaille, on peut prendre l'envers, dans l'ordre que vous voulez. Fait que, tu sais, finalement, C'est quoi ton histoire avec Mathieu Bocoté? C'est ça qu'on se demandait, parce que c'est comme un personnage qui revient souvent dans tes chroniques, honnêtement. Là, j'ai parcouru le livre au complet, puis je pense que tu as facilement quatre chroniques où tu parles de lui là, dans le bouquin. Là.
Ben écoute, comment je te dirais, premièrement, je suis content d'être là. Les gars, merci de l'invitation. J'ai surfé sur ce que vous faites, puis évidemment, idéologiquement, on est aux antipodes sur bien des affaires, mais on a un dénominateur commun, je dirais, on trouve que ça va mal. Puis on aimerait ça que ça aille mieux. Fait que c'est déjà pas pire. J'aime mieux jaser avec du monde comme vous autres qui sont d'avis que ça va mal. Après ça, on peut s'obstiner ses solutions. Mais si je jase avec quelqu'un qui me dit que ça va bien, là, c'est parce que ça ne sait pas par où commencer. Là, je pense qu'on est mieux de laisser faire. Puis pour le reste, je salue le travail que vous faites. Il n'y a pas de flagornerie dans ce que je dis là. Mais depuis justement janvier, là, j'ai commencé à vous suivre plus en détail. Puis de voir, vous faites contrepoids sur un paquet d'affaires, notamment sur les questions avec Plamondon, ces questions d'indépendance, que je sois d'accord, pas d'accord, c'est pas grave, mais ces voix-là sont tellement, puis j'arrive à Bocoté dans un instant, il y a peut-être même un lien à quelque part, ces voix-là sont trop rares, je te dirais, dans l'optique où que vous permettiez justement un gars comme moi qui nécessairement pense pas la même chose que vous. Puis c'est pour ça que j'ai accepté, parce que, bon, J'ose croire qu'en démocratie, on est encore capable de jaser sur des éléments qui sont rationnels. Vous soulevez des éléments rationnels. Tu sais, vous avez, de ce que je comprends, vous êtes d'une droite conservatrice classique d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique, ce que je ne suis pas. Mais moi, ça me rappelle les bons débats qu'on avait pendant longtemps où c'était des débats intelligents. On était capable de s'obstiner à partir de faits, à partir de chiffres, à partir de... Puis là, après ça, bien évidemment, il y a une dialectique qui se crée, puis parfois, on va plus à gauche, parfois, on va plus à droite, des fois, on reste... Mais tout ça pour dire bravo, parce que c'est vraiment important ce que vous faites là. Puis, pour revenir à votre côté, moi, ça va... Ceux qui disent, ouais, là, quatre chroniques, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est quand même pas de ma faute, esti, s'il est partout, là. Je veux dire, c'est moi qui ai décidé de le mettre partout, hein. C'est Bolloré, là, qui est un... T'es un esclavagiste total et complet, un chrétien, un fêlé. Puis je pèse mes mots, parce que je pense pire que ça. Valeur actuelle, tu sais, c'est un facho, ce gars-là. Là, tout le monde le sait. Puis là, au Québec, ah, Mathieu Bocoté réussit en France. Il ne réussit pas en France. Il réussit sur une chaîne de fascistes. Il faut faire attention. Là, c'est pas la même affaire. Puis ici, donc, il fait attention à ce qu'il dit. Puis moi, ça va vous surprendre, j'ai même été chumé pendant une couple d'années avec lui. On a fait le party en France à un moment donné, là, je ne sais plus, en 18-19, je ne me rappelle pas. On se parlait une fois de temps en temps. Ce n'était pas un grand ami, mais moi, j'y donnais le bénéfice du doute quand il était au Québec. Parce qu'il n'est vraiment pas con, ce gars-là. Là. Il sait exactement ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Et quand il l'avait échappé ici avec le Bloc québécois, tu sais, il s'était fait expulser du Bloc de Duceppe, quand vous parliez du Bloc tout à l'heure.
Ouais.
Parce qu'il avait cité Maurras. Mais Maurras, c'est un collabo, là. C'est un nazi, là. C'est ça qui est. Puis quand tu sais un peu plus ça, il dit, je veux pas avoir ça dans mon parti, il a botté le cul. Là, son excuse, ah oui, j'étais jeune. OK, parfait. Et là, après ça, il a compris dans quel univers, dans quelle sphère il pouvait œuvrer au Québec, ce qu'il peut dire puis ce qu'il peut pas dire. Or, quand il est débarqué en France, là, le gasket a sauté parce que la France, il y en a de l'extrême droite, il y en a de l'extrême gauche. Ici, là, tout est au centre. Au Québec, on est dans un centre insignifiant en tant qu'à moi. Il n'y a personne qui sait trop c'est quoi la gauche. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais. C'est pour ça que je trouve ça important, le rôle que vous jouez, parce que vous amenez une voix qui est posée, une voix qui est rationnelle, sur du rationnel, puis qui ramène cette dialectique-là. Ici, au Québec, on dirait qu'il n'y a personne qui est au courant qui est d'extrême droite. Bien, faites Mathieu Bocoté extrême droite en France, ça va débouler. Vous n'aurez même pas le temps de finir Google. Donc, la réalité, c'est que le gars là-bas, il se gâte. Il a quand même pris la chaise d'Éric Zemmour, qui est un esti de malade. T'sais, il a cité Zemmour dans sa thèse de doctorat. Le gars qui est condamné, ça fait quoi, 4, 5, 6 fois pour haine raciale. Le gars qui propose un ministère de la rémigration. La rémigration. Il veut déporter du monde. Puis ce gars-là prend la chaise d'eux. Il a même écrit dans le Journal de Montréal, « Ah, bien, le seul problème d'Éric Zemmour, c'est ses propos parfois un peu misogynes, très méditerranéens. » Honnêtement, là, c'est pas mal la moins pire des affaires qu'on peut reprocher à Zemmour. Puis là, ce qui est en train de se créer, je pense, c'est cette espèce de clivage-là où, en France, que j'en ai plein d'amis en France. Moi, j'ai chroniqué au journal Le Point là, pendant une couple d'années. Puis Saint-Marane m'a écrit, en tout cas. Tu sais, ils savent, là, ils ont dit, c'est quoi cette bibitte-là? Mais ici, il fait toujours attention pour ne pas franchir la ligne. Ou quand il le fait, c'est avec des termes qui sont éducorés, comme immigration massive. Tu sais, ça veut dire quoi, l'immigration massive? Pas si grave que ça. Mais bref, moi, je considère, puis j'en fais même pas une affaire, ça paraît pas, là, mais j'en fais même pas une affaire personnelle, dans le sens où, tu sais, je m'en fous de bas côté, moi. Mais c'est ce qu'il personnifie comme personnalité, donc, médiatique, qui fait rentrer un discours qui est excessivement délétère et dangereux, puis qui s'en excuse par la suite. Tu sais, ce gars-là, là, il appuie Zemmour, évidemment. Il a même écrit une chronique dans le Journal de Montréal là-dessus. Il appuie encore à plus forte raison Le Pen. Or, j'ai un ami, moi, je peux même le dire, c'est Félix-Antoine Michaud, qui était directeur de campagne pour Alexandre Cloutier à la course à la chefferie au PQ. Et il avait dit à un moment donné... Bon, Bocoté est en train de se sacoquiner avec Le Pen et compagnie. Puis Bocoté, il a écrit un message. C'est dégueulasse que tu m'associes à Le Pen. Voyons donc, blablabli, blablabla. Regardez-les aujourd'hui à inviter Marion, qui est encore une coche au-dessus de Marine et compagnie. T'sais, fait que bref, tout ça pour dire que ce que je crains, moi, puis ça, j'ose croire que je ne suis pas tout seul à le penser, c'est de faire rentrer ces discours-là en catimini, puis on déplace en la fenêtre d'Overton tranquillement, pas vite. Si vous regardez le journal Le Monde, qui est pour moi, pour vous être d'accord avec ça, mais le journal francophone le plus crédible au monde, à mon sens, ben, il a fait un portrait sur Bock-Côté, justement sur le fait qu'il l'appelle la doubleuse de Zemmour. Il dit ce qui fait d'envie Bock-Côté, c'est sans cesse traîner l'extrême droite vers la droite pour la rendre acceptable. Or, ça reste quand même de l'extrême droite. Puis c'est pour ça que je pense qu'il faut dénoncer le discours. Et le bonhomme, moi, contrairement à d'autres, je ne m'attaque jamais à lui personnellement, le style, ce qu'il a l'air, l'affichement, je m'en sac de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qu'il dit, par contre.
Il y a quelque chose qui me fascine dans ce que tu dis, c'est la chose suivante. C'est que premièrement, moi, la perception que j'ai de Mathieu, c'est quelqu'un que je connais quand même depuis longtemps, là. Il ne me donne pas l'impression d'un gars qui a changé beaucoup son discours. Ici, on l'a déjà reçu dans le temps, le réseau Liberté Québec, j'étais à la tête de ça. On l'a reçu, il est venu de faire des discours de notre côté en 2012. Je regarde ce qu'il nous disait à l'époque, je regarde ce qu'il dit aujourd'hui, puis honnêtement, je ne vois pas une grande variabilité. Ce qu'on va voir de ton côté, c'est justement...
Yann, je veux juste dire, le point de discorde est toujours le même entre les deux. C'est l'aspect identitaire, la charte.
Parce qu'il faut dire que moi et Mathieu, effectivement, on a nos points de contact également. mais justement, mais on a toujours été proche sur certaines idées et loin sur d'autres, notamment sur l'immigration. Je suis beaucoup plus proche de toi probablement en termes d'immigration que de Mathieu. Mais sur d'autres éléments, je suis beaucoup plus proche de Mathieu, sur le wokisme, par exemple, tout ça, je vais être très près de ses idées de ce côté-là. Je ne l'ai pas senti changer beaucoup, alors qu'on te voit un peu plus à l'époque de ton côté. Ben, justement, je pense que tu disais 2018-2019, tu étais au journal Métro, tu faisais une tentative de podcast, je pense que vous essayez de décoller à l'époque. Vous êtes capable de faire une entrevue ensemble, presque côte à côte. Vous avez une interaction qui est très amicale. Ça donne la perception que c'est pas Mathieu qui a changé tant que ça, c'est plus toi. Est-ce que c'est passé quelque chose de ton côté pour que justement ta perception par rapport à lui change énormément?
Non, mais moi, rien par rapport à lui, même la preuve. Écoute, quand il y a eu le job en France, j'ai fait CNews. J'avais des doutes, mais bon. On allait manger une fois de temps en temps. Là, j'ai même texté « Hey, bravo! » puis. Où il y a eu un point de bascule, c'est quand j'ai commencé à écouter ce qu'il faisait en France.
Okay.
Là, j'ai fait « OK, non, mais c'est pas sérieux, là. » Tu sais, la théorie du grand remplacement, les gars, là, c'est une théorie complotiste, là. Tu sais, c'est Renaud Camus qui est sorti dehors, là, puis il dit « Ah, attends, il y a 8 Maghrébins, puis il n'y a pas de Blancs. » Puis c'est un romancier, Renaud Camus, là. Tu sais, c'est une espèce de zigoto, là, qui s'amuse, qui écrit bien, apparemment, puis... Il a lancé ça. Puis là, il y en a. Au début, si tu disais, ah, je crois à la théorie du grand remplacement, tu étais qualifié de facto de coucou par excellence. Là. Il n'y a personne qui croyait à ça à part 7-8 Wobo. Or, aujourd'hui, Bock-Côté lui-même te fait la promotion de la théorie du grand remplacement à journée longue. La seule affaire, c'est qu'il a changé le terme. Puis lui-même le dit, je n'emploierai pas la théorie du grand remplacement, les termes de la théorie du grand remplacement, c'est parce que les termes sont galvaudés. Pas que ça n'a pas d'allure, qui sont galvaudés. Ah, OK, bon, très bien. Mais c'est parce que moi, je m'en fous comment tu l'appelles. Si tu me lances le même message, c'est ça qui est important. Et puis, rendu là-bas, il faut pas se... C'est facile à comprendre, à mon avis. Sur CNews, ils sont encouragés à créer cette espèce de dissension-là. Et c'est pas pour rien là, qu'ils ont failli se faire fermer récemment. Puis moi, je suis pas d'accord avec le fait de fermer CNews, là, qu'on se comprenne bien. Ouais. Mais je suis d'accord avec le fait, par contre, que si tu as des obligations réglementaires, mais tu ne peux pas agir à l'extérieur de la loi. Bref, moi, c'est le Bock-Côté français qui m'a déçu. Parce que moi, plein de chums québécois, quand ils savaient que j'étais chumé avec Bock-Côté, disaient « T'es un malade, c'est un fasciste, ce gars-là, voyons, réveille-toi. » Je dis « Ben non, c'est pas si pire que ça, puis blablabla. » Puis on mangeait de la pizza, puis on buvait de la bière, puis bibibi. Ça, on s'entendait. La pizza, la bière, ça allait bien. Le reste, c'était sur à peu près tout.
Ça va toujours bien, ça.
Oui, ça va absolument, ça va bien. Mais on était capable de se parler. Or, quand il est arrivé en France, écoute, j'ai un de nos amis, c'est pas un ami commun pour lui, mais un gars qui est bien placé au Québec, je peux pas dire son nom, là, parce que je pense que ça va faire du trouble. Puis c'est pas un politicien, mais disons qu'il est dans un spot très, très névralgique sur ces questions-là, qui me dit, l'année passée, il dit là, il est vraiment temps qu'il revienne de la France, là. Parce que là, il est rendu radioactif ici, dans plusieurs cercles. Ça a juste plus de bon sens. Puis tu vois, c'est ça qui a fait en sorte que moi, quand il était au Québec, le métro, le truc de podcast, tu disais, c'était pas un podcast, c'était plus une émission sur le dimanche, machin. Puis j'invitais tout le monde, ou à peu près, là. J'ai invité Duhem, tout ça.
Ouais, t'as eu Drainville aussi, je pense.
J'ai eu toute la gang, puis Jack Mincing de l'autre bord, puis Trudeau, puis bon, bref. Puis pour moi, il n'était pas radioactif à ce moment-là. C'était un adversaire idéologique coriace, mais il n'était pas radioactif. Mais écoutez ce qui se dit en France. Regardez les commentaires des médias français sur CNews, notamment sur lui. Là, il a flippé bien raide. Là. Il a bu le Kool-Aid, puis il n'est plus là pendant tout.
Juste terminer sur Bocoté, parce que dans le livre, vers la page 168, tu dis « Mathieu Bocoté n'est point, en bref, un simple analyste politique, plutôt un militant féroce qui fait de sa nature d'incontournable, qui, du fait de sa nature incontournable, tire maintes ficelles du débat public. » Ça, c'est... Nous, on a déjà tenu ce genre de propos-là. Ben, je ne sais pas si Mathieu nous en tient rigueur, mais que... T'sais, notamment la fameuse renaissance du PQ qui était à 10 % personne ne parlait du PQ. On prophétisait même que Pascal Bérubé serait le dernier député à fermer la lumière et à traverser à la CAQ. Tout le monde voyait ça.
J'ai pensé, moi aussi.
Tout le monde voyait ça se dessiner. Et là, on a vu, à un moment donné, à partir, je pense, du deuxième débat, la machine québécoise s'est mise en marche. Tous les textes pratiquement qui étaient publiés étaient pour nous expliquer que PSPP était la meilleure invention depuis le pain tranché. Et depuis ce temps-là, ben, ça a fait boule de neige. Mais comment je dirais ça? Tu sais, Mathieu Bocoté, je veux pas qu'on passe le podcast au complet sur lui, honnêtement, il est vraiment pas le seul chroniqueur à jouer ce rôle-là dans les médias. Là. C'est peut-être moins subtil, mais ce qu'on appelle les fameux spin doctors, là, mal tous les partis en ont dans des médias. Et
sauf peut-être Éric Duhem dans le PCQ.
C'est plus difficile. Là. C'est plus difficile, mais je veux dire, je ne veux pas name-dropper particulièrement parce que ce n'est pas ça l'objet du podcast. Là. Mais il y a certains chroniqueurs ou chroniqueuses, par exemple, qu'on sait qu'il n'y aura jamais grand-chose de négatif qui va être dit sur, par exemple, le maire de Québec ou sur d'autres personnes. Est-ce que tu le vois comme ayant un statut à part dans ce paysage-là ou il s'inscrit un peu dans la même lignée que d'autres qui font finalement la même chose que lui, mais peut-être de manière un petit peu moins avouée ou...
C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, c'est normal comme chroniqueur, tu sais, je le suis, là. On a des favoris, puis on a des têtes de turc. Puis, tu sais, vous faites la même affaire, vous autres aussi. C'est vrai qu'on fait de l'opinion, là. C'est bien pour ça. Mais par contre, ça prend une diversité. Puis quand le Journal de Montréal se met à souligner sur une personne à coup de 9 chroniques sur 9, ça commence à faire beaucoup. Puis quand ça fait 6 mois, là, ça commence à faire vraiment beaucoup, beaucoup de chroniques qui disent la même affaire sur le même sujet ou sur la même personne. La grande différence que j'ajouterais, tu as raison à 100 % de dire qu'il n'est pas tout seul là-dedans, là, je le sais bien. Sauf que c'est le plus habile de la gang, pour moi. Parce que, tu sais, les gens disaient ça ne marchera jamais, ces affaires, genre à Montréal, il est trop intello, trop ci, trop ça. Mais il a trouvé une manière, puis ça, moi, je lui donne, c'est un excellent rhétoricien, c'est un démagogue dans le tapis, là. Il dit n'importe quoi à moitié du temps, mais il est vraiment excellent pour passer ses spins, même auprès d'une population qui n'est pas nécessairement au niveau du doctorat, mettons, là, disons ça comme ça. La différence, donc, c'est qu'entre lui et un gars comme Martineau, bien, il y a une espèce d'aura intellectuelle. Donc, quand je parle de tirer les ficelles, ben c'est parce que, tu sais, quand François Legault vend ton livre, puis lisez ça, puis c'est ci, puis ça, puis tati, puis tata, tu sais, c'est quand même beaucoup, là, on s'entend bien. Puis pour le reste, tu sais, le PQ ne fait pas vraiment la promotion des opinions de Richard Martineau. Le Bloc québécois, ça ne se fiche pas tant que ça que Richard Martineau non plus. Mais ça s'affiche avec Bocoté Saint-Moyen-Étang, par exemple. Parce que pour eux, c'est comme la courroie de transmission avec la diplomatie internationale, puis Québec souverain, la France, machin. Donc, c'est dans cette optique-là. Puis, pour préciser mon passage, j'exclus en aucun temps tout ce que tu dis. Je partage le fait qu'il y a une machine pour laquelle Bocoté joue sur le premier trio, là, nécessairement. Mais il est clairement pas tout seul dans cette équipe-là. Puis, moi, j'aime beaucoup quand vos critiques de Québécois, vous êtes un des très rares à le faire. Moi, je le fais sur mes chaînes de radio, puis ça grince toujours un peu. Mais tu sais, disons que le PQ ne peut pas compter sur Québécois au moment où on se parle. Là. Est-ce qu'il est à 34% dans les sondages?
Non.
Mais écoute, tu fais le lien vers le média, puis tu as vécu de l'interne, Journal Métro, puis j'avais pensé à une couple de questions par rapport à ça, parce que j'étais curieux sur certaines choses. C'est quelque chose qu'on a parlé beaucoup à l'automne, en fait. On avait sorti toutes les subventions qui étaient octroyées aux médias traditionnels. C'était assez hallucinant de voir les chiffres. Un des chiffres m'avait frappé le plus, par exemple, c'était le magazine L'Actualité, qui ont 10 publications par année, qui reçoivent 1,2 million des gouvernements. Là, tu es là, tu dis, tu fais une coupe de calculs, tu fais le nombre de textes, puis tout, puis tu te dis, crème, ils sont dans le coin de 1 000-1 500 $ par texte. C'est sûr que ça ne va pas tout à l'auteur. Il y a des publicités qui rentrent aussi, ils ont des abonnements. Tu sais, c'est weird un peu. Puis là, l'histoire de Journal Métro était spéciale aussi parce que les subventions ont plu sur le Journal Métro. Il y a des dividendes qui ont été versés à très haut niveau. Puis du jour au lendemain, un peu après la pandémie, les subventions baissent un peu. Puis boum, on ferme la shop. Les artisans sont mis dehors. Tout était à l'interne à ce moment-là. Il y a des malaises, je trouve. Je pense que les médias utilisent beaucoup leur notoriété, le fait qu'ils peuvent attaquer les politiciens pour les intimider, pour aller chercher des subventions qui sont favorables aux dirigeants de ces entreprises-là. Je ne suis pas sûr que ça se rend tout le temps dans les mains des journalistes, des auteurs, des artisans, mais ça brise un peu le discours, la dynamique, parce que justement, nous, on est catégorisés comme des gens justement radioactifs. Moi, je me suis fait dire dans des stations de radio locales, tu n'as pas le droit de parler de tel sujet. Si tu parles de tel sujet, c'est fini, il n'y a plus de chronique. J'ai vu des gens se faire dire, si tu as Éric Duhaime comme chroniqueur, tu perds ta job comme animateur. Ça s'est fait dans des postes de radio. Le gouvernement investit massivement dans les médias, dans les subventions, contrôle le discours avec ça. Tu en as fait un peu partie de ton côté. J'aimerais avoir ta vision des choses. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des subventions? Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce qu'on a vraiment une crise au niveau des médias? Parce qu'il y a toutes sortes de gains de productivité avec des chats GPT de ce monde, tout ça qui ne semble pas vraiment encore utilisé assez. Mais on a-tu vraiment une crise ou c'est une crise artificielle un peu pour aller tirer du jus des gouvernements?
Oui, je vais vous raconter mon histoire très personnelle qui, de manière très, très indépendante, vous évaluerez par la suite, puis après ça, je ferai peut-être un lien là, avec le reste. Mais tu sais, moi, j'étais au métro depuis 2016, si je ne me trompe pas, 2017. J'étais le plus ancien de la boîte, là, parce que souvent, tu sais, ça
roule beaucoup. Là.
Puis quand ça a été racheté de Transcontinental, tu sais, ça allait mal chez Transcon, là, ils coupaient du monde, là, c'était comme aïe aïe. Puis quand ça a été racheté, j'ai dit, bon, bien évidemment, tant mieux. Puis j'ai toujours, parce que moi, je suis comme ça dans la vie, là, quitte à être épais, là, je suis vraiment je suis très loyal. Je suis loyal comme un chien. Là. Si j'ai quelqu'un qui m'aide, ben, ou peu importe quoi, là, je ne laisse pas tomber mes chums, puis je laisse pas. C'est contre nature. Puis j'ai eu des offres pour aller chroniquer ailleurs. C'est là des trucs. Puis pour moi, j'étais affiché métro. J'aimais le métro parce qu'il me donnait. Ça, je pense que c'est important de le dire. Sans dire que c'est sous-entendu de ta question, je veux quand même, il peut y avoir une critique à cet effet-là. Fait, je vais y répondre. J'ai toujours été super indépendant parce que ça, c'est une autre caractéristique que j'ai. Je suis trop vieux pour me faire dire quoi faire. Tu sais, je ne serais pas capable de toute façon.
Ouais. Tu ne voulais pas d'un journal qui change ton titre, qui te dise « écris ça, écris pas de même ».
C'est arrivé une fois, deux fois, où il y a un boss au métro, un big boss, qui me dit « hey, il faut écrire là-dessus, puis tu écris là-dessus, regarde, j'ai fait un draft ». Malade, je ne vais pas publier le draft de quelqu'un d'autre. Là. Premièrement, j'ai un style un peu bizarre, là, non, je ne vais pas faire ça. Puis c'était mon boss, là, puis pas le petit boss, c'était le gros boss. Ça ne va pas arriver. Bon. Puis c'est la seule fois, puis c'était dit, ben c'était pas des menaces, rien, là. C'était juste malhabile, là, quelqu'un qui ne connaissait pas comment fonctionnait les médias. Mais moi, je savais que ça allait relativement mal au métro parce que, bon, il y a une crise médiatique. Ça, là-dessus, je pense que les revenus publicitaires qui sont partis un peu partout là, chez Grangeois, ça, je pense que c'est vrai. Mais en même temps, tu sais, moi, je suis pas le comptable de la compagnie, je sais pas trop ce qui se passe, puis c'est pas vraiment de mes affaires. Moi, j'ai écrit chronique avec ma grand-yole, je dis ce que je pense, puis ça finit là, puis ils sont contents. Puis là, ils m'avaient, tu sais, créé le petit show dont tu parlais, là, avec la divan jaune, des chroniques de livres, des réactions à l'actualité. J'allais dans les favelas au Brésil, la petite révolution au Chili, puis ils me payaient des affaires, les gilets jaunes en France, ce style, tu sais, je veux dire, c'était très cool pour moi, le métro. Ouais, ouais. Ils ont été très bons. Puis je pense que je leur en donnais aussi pour leur argent. Ils me payaient correctement. Ils payaient ce que ça vaut, mais ce n'était pas des fortunes non plus. Et vers l'année passée, là, on est quoi, là, en 2020? En 2023, là, en mars 2023, là, ça a commencé à scraper un peu avec la ligne de crédit, tatitata. Puis moi, je suis juste un pigiste. Hein, là, je n'ai jamais été employé parce que je voulais continuer à faire mes autres trucs aussi de manière indépendante. Mm-hmm. Mettons, je suis chronique à Radcan, au Saguenay, à Boulevard, à Québec, chez vous, Cogeco, Outaouais.
Ouais.
Et puis pour moi, c'est important de garder tout le temps cette indépendance-là. Puis je n'ai pas d'exclusivité nulle part. Jamais. T'sais, si je fais Cogeco Outaouais, évidemment, je ne vais pas faire Radio-Canada Outaouais, là, mais à part ça, j'ai zéro exclusivité, j'en ai jamais eu, puis j'en veux pas. Et là, quand ça commence à scraper, là, le big boss m'invite. Bon, Fred, peux-tu nous aider politiquement? Puis ça, c'est la première fois que je raconte ça, là, parce que je. Bon, premièrement, on ne l'a pas demandé, mais. Pour le reste, je pense que vous en jugerez, là, mais ça peut peut-être éclairer à lanterne un peu sur ces enjeux-là qui sont vraiment importants. Puis je partage tes appréhensions. Là. Peux-tu nous aider, tati, tata, si, ça, ça? Parce que je connais des politiciens, j'en connais plus que pas assez. Puis des fois, c'est des hasards de la vie, puis des fois, c'est des chums de longtemps. En tout cas, bref. Fait que, ouais. Fait que là, j'appelle une couple de chummies. Si tu prêtes à. Mon boss au métro aimerait ça de jaser, puis tati, puis tata, mais tu sais, moi, je suis pas sur la ligne après, là, ce qui se dit, ce qui se dit pas, là, tu sais, j'ai aucune idée, j'ai mis en contact, essentiellement. Puis ça reste de même, blablabla, OK, oui, va peut-être y avoir un plan de sauvetage, puis tata, parce que le métro, il faut comprendre aussi, il y avait une dynamique particulière, dans le sens où il y avait plusieurs satellites à Montréal, dans les divers quartiers, par exemple, métro Plateau.
Oui, c'était 16-17 publications dans ce coin-là,
je pense. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y avait un truc très particulier au métro, c'est-à-dire qu'il était livré dans les cossins de, comment on appelle ça?
Ouais, Publisac,
machin. Fait qu'évidemment, pour les revenus publicitaires, c'était drôlement important parce que l'annonceur savait qu'il allait rejoindre X dizaines de milliers de foyers ou centaines de milliers, là, je ne sais pas trop, plus le web, plus ci, plus ça, t'sais. Puis là, quand la Ville de Montréal a tiré à plug sur ce type de publisac-là, bien, tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que le modèle d'affaires est en train de sacrer le camp. Fait que bref, moi, j'ai vraiment travaillé fort pour les mettre en contact avec un et avec l'autre. Puis je gardais toujours mon indépendance aussi, là, tu sais, dans le sens où, je le répète, je savais pas ce qu'ils se disaient par la suite, puis c'était pas de mes affaires. Puis à un moment donné, ils m'invitent à prendre une bière. Ça, c'était un autre boss en juillet, ouais. Je pense qu'on va s'en sortir, c'est tough, mais on s'en sortit. En tout cas, merci d'être là, tati tata, puis bon, OK, merci. Puis j'étais à Los Angeles en août, je reviens en fin de journée, puis là, j'ai appris vraiment la nouvelle en même temps que tout le monde. Là, j'ai fait, OK, quand c'était le temps, là, hey, Bérard, peux-tu me mettre en contact avec n'importe qui? Ah là, la Bérard, c'est bien important, mais... Un texto avant, hey Fred, on est obligé de tirer à la plug, ça c'était trop de trouble. Mais c'est correct, je veux pas me la jouer, genre je suis important, non, mais il me semble que ça aurait fait partie des règles de la décence, mais c'est pas grave. Mm-hmm. Je vais pas fou avec ça, je suis pas assez susceptible, c'est pas important. Mais quand j'ai appris 2-3 jours après que ce tabarnak-là, puis je pèse mes mots, s'est garoché 2,4 millions d'impoches pendant qu'on coupait du monde dans les salles de presse. Là, j'ai dit, là, vous êtes effronté, c'est un asti de moyen temps, là. Là, j'ai fait, oh, wow, OK, ça, vous l'avez tenu ça mort, hein? Pas pour rien. Puis, à la décharge de l'autre boss, c'est pas lui qui se l'est mis dans les poches, c'est celui qui avait acheté, qui distribuait en même temps, blablabla. Bla, bla. Au moins, c'était pas lui. Mais c'est parce que la réalité était telle que cette compagnie-là a fait une fortune pendant la pandémie, parce que pour moi, 2,4 millions de dividendes, c'est une fortune là, en une année. Là, je pense qu'on peut s'entendre là-dessus.
Ouais, un bon revenu.
Puis là, tu garoches la compagnie en bas du boss. Tu sais, moi, j'étais juste pigiste. Là, j'écrivais, je ne sais plus, là, X chronique par semaine. Couple de... Puis j'aimais ça. Moi, ça ne me forçait pas. Je ne gagne pas ma vie avec ça. Moi, je suis associé d'un bureau à Montréal. C'est pas les revenus là, qui m'achalaient. Là. Mais il y en a, par contre, c'était leur job. Là. C'était leur gang-pain. Là. C'était leur vie professionnelle. Puis t'as fait, regarde, ben c'est fini, là, c'est rendu trop compliqué. Écoute-moi bien, là, c'est parce que si t'as ramassé 2,2 millions, là, 18 mois, là, je pense que ça s'est renégocié une marge de crédit, là. T'es à peu près convaincu, là. Tu sais, le budget du métro, là, c'était pas 40 millions par année, là. Fait que ça, moi, je me suis senti vraiment floué. À titre personnel, mais surtout pour mes collègues, surtout pour les employés, il y en a plein là-dedans que je connaissais pas du tout, mais ces gens-là ont été... victime de toute cette espèce de BS corporatiste là, parce que c'est ce que c'est du BS corporatiste. Oh, puis là, il n'y a plus de subvention, on n'arrive plus, bon, ben, ciao, bye, merci, bonsoir. Puis je vais faire un lien avec Québécois. T'sais, le jour où Legault va leur promettre un plan de relance pour TVA, là, regarde bien ça, là, les chroniques sur la CAQ vont changer de ton, ça ne sera pas si pire que ça. Je suis à peu près prêt à te gager ça.
Oui, mais c'est ça le problème qu'on voit, c'est qu'on a fait un podcast il y a peut-être un an et demi de ça, avec on avait invité Hélène Buzetti pour un livre qu'elle sortait, puis à un moment donné, la question des médias est venue sur le sujet, puis Yann il avait demandé, il avait dit « Ouais, mais tu sais, tu parles, à nous parler un peu de ce que tu as dit, là, la baisse des revenus publicitaires, tout ça, et elle, elle faisait un genre de plaidoyer, là, je ne veux pas déformer ses propos, là, mais un genre de plaidoyer finalement pour un financement public là, des médias, puis Yann, la question que tu avais posée, c'est « Ouais, puis t'sais, là-dessus, je trouve que ton input est intéressant parce que, bon, t'es dans les médias d'un puis t'as une formation de droit de l'autre. C'est que nous autres, ce qu'on disait, c'est « Ouais, mais cette année, si tu veux préserver l'indépendance de la presse puis tu veux que la presse soit un quatrième pouvoir puis challenge pour de vrai le gouvernement, mettre les journalistes sur le payroll quasiment du gouvernement avec que l'entièreté des revenus ou la majorité des revenus viennent de fonds publics, tu sais, Yann, tu l'as dit, là, on le sait, là. On le sait très bien. Puis je veux dire, c'est rare, je dis ça, mais fiez-vous à nous. Là. Il y a des téléphones qui se passent, il y a des députés qui appellent des fois quand des couvertures de journaux ne font pas leur affaire. Et les petits médias locaux sont particulièrement vulnérables à ce genre de choses-là. Là. C'est arrivé en Beauce, notamment. Une couverture de journal qui ne fait pas l'affaire d'un député local, il appelle, hey, tu le sais, hein, qu'on t'aide, on vous aide. Puis.
Les régionaux, mettez Radio X là-dedans, là, ce qui s'est passé, d'enlever les budgets de publicité. Là, on l'a toujours dit aux gens, quand tu enlèves les budgets de publicité à Radio X pendant la pandémie, le but, c'est pas que Radio X change de ton. Parce que Radio X n'a pas changé de ton. Ça a été évident, des têtes de cochon là, puis tout ça. Le but, c'est que les autres médias autour ferment le gueule. Puis c'est carrément ce qui est arrivé. C'est à partir de ce moment-là, quand Radio X a perdu ses programmes de publicité avec le gouvernement, c'est à partir de ce moment-là que les autres radios plus locales ont commencé à changer le discours puis ont commencé à éviter certains sujets. Fait que moi, de voir le gouvernement à deux mains dans les médias, le malaise est extrêmement profond. Puis la chose qui me gosse aussi, c'est on dit que les baisses de revenus publicitaires, puis c'est parce que c'est les YouTube, les Facebook de ce monde. Les amis, les revenus publicitaires de YouTube, c'est vrai qu'ils en ramassent. Ils vont dans des poches de Google, oui, mais viennent aussi d'une poche de créateurs québécois. On en est la preuve vivante. Mmh. Tu sais, c'est le bout, je pense, qui est négligé beaucoup. Fait que cette industrie-là est en transformation. Les gens vont avoir à s'adapter. Tu as l'air de quelqu'un qui est capable de s'adapter aussi. Fait que je pense qu'il y a des opportunités. Il n'y a pas juste des fatalités dans le monde médiatique. Il y a des choses de fun qui se passent également. Écoute, on a trouvé
la journée des anecdotes. Le festival d'anecdotes, si vous ne l'aimez pas, vous me direz une fois fermé ailleurs à mi-chemin. Mais quand vous parliez d'influence puis de l'ingérence du politique, moi, j'ai toujours eu un style, regardez ce que je pense, puis ça fait pas, c'est pas grave. Là. Quand est venu le temps de la pandémie, certaines mesures que j'ai appuyées, puis après ça, je me suis mis à rentrer dans Ruda, en veux-tu, en voilà, puis au point où là, le gouvernement Legault, même pas, puis ça, c'est bien correct, parce que c'est très réciproque, a décidé de commencer à me faire la passe. Et, tu sais, il me semble, dans un État démocratique, libéral, l'indépendance de la presse, puis là-dessus, je vous rejoins sur la solution. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi la meilleure solution, je ne sais pas. Mais sur l'indépendance de la presse, pas négociable, cela, là. Tu ne peux pas commencer, ah ouais, mais dans tatatata. Puis tu sais, il y avait eu des histoires, des crises à Radio-Canada à un moment donné. Puis Fred Savard avait dit, non, on n'est pas censuré à soirée, t'es encore jeune. Arrive un temps où tu sais ce que tu peux pas dire. Ben, c'est parce que c'est quand même pas mal.
OK, ouais.
Bref, et là, le métro, moi, tu sais, c'est toujours un peu spécial parce que c'est arrivé une couple de fois. Ou le petit boss, le rédac chef, ouais, Fred, on a reçu un autre appel du gouvernement Legault, du bureau du premier ministre. Je dis, c'est qu'il y a. Ouais, là, écoutez bien celle-là. C'est arrivé une couple de fois, là, mais celle-là est vraiment particulière. J'ai deux petits cochons chez moi, OK? Je suis un ami des animaux. Là. J'ai deux micro-cochons, George pour George Orwell, puis Albert pour Albert Camus. Okay? Et je m'amusais. Et je m'amusais. Ils vont peut-être passer et nous dire bonjour tout à l'heure. Et je m'amusais pendant, je ne sais plus là, ça fait 2-3 ans de ça peut-être. Je faisais des vidéos avec Georges, avec Georges, j'avais pas Albert encore. Puis je niaisais le gouvernement là, sur la dérogatoire. Puis je faisais dire des affaires, en tout cas, je ne sais plus trop. Là, puis j'écœurais Jolin Barrette. En tout cas. Des vidéos d'une minute et demie, 2 minutes. Je mettais ça sur Facebook. Le monde trouvait ça bien drôle. Puis il partageait ça partout parce que c'était un cochon qui parlait. Puis je donnais des framboises à la fin. Quelque chose de même. Et là, le lundi, branle-bas de combat. Pas vrai, j'exagère parce qu'il prenait ça à légère, mais il m'appelle. Il dit, ouais, il dit, là, le bureau du PM a encore appelé un matin. Je dis, tu sais, déjà, là, le bureau du PM, ça n'appelle pas les médias pour chialer, ça se fait pas. Ça.
Ouais, ils n'ont pas quelque chose à faire, eux autres.
Écoute bien ça. Là, c'est toujours le même usual suspect. Il vient de sortir un livre, là, Pascal Maillot. Ça, là, c'est un pas pire de chez pas pire, ça. C'est lui qui appelait les médias pour intimider. C'est ça qu'il faisait. Puis, moi, vous en racontez une autre après, vous allez voir à quel point c'est fort. Puis là, il dit, ouais, là, Bérard, encore, là. Là, en fin de semaine, là, il a fait une autre vidéo avec son cochon pour rire de nous autres. J'écoute, c'est Olivier Robichaud qui était boss, ça. Je dis, attends une minute, là, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Il dit, ouais, il dit, Chris, gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faut bien que je t'en parle. Là. Il dit, Bérard, il est encore. T'as-tu fait une vidéo sur Facebook avec ton cochon en fin de semaine? Je dis, oui, absolument. Puis j'espère que tu ne me demandes pas de la retirer. Il dit, non, il dit, je voulais juste te le dire. Dis-moi, la prochaine fois qu'il t'appelle, pose-lui en question. Tabarnak, vous n'avez pas un Québec à gérer, vous autres, au lieu de regarder des vidéos de cochons, hostie, la fin de semaine sur Facebook? C'est quoi cette gang de bouffons-là? Ouais, là, le cochon, là, il a dit que Simon Jolin Barrette, hey, on s'en sac, là, je veux dire, c'est pas grave. Juste pour dire, il se sentait, ou c'est grave, en fait, il se sentait la légitimité d'appeler mon rédac-chef pour se plaindre de moi. Parce que j'avais fait une vidéo de cochon sur son... C'est pas des farces, là. T'imagines-tu? Puis une autre affaire, j'avais reçu un scoop à un moment donné de journaliste qui me disait que Yuan Liu allait être mis à profit pour appuyer Arruda, blablabla, bla, 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 pendant la pandémie. Le même maillot, toujours le même, m'appelle. Ouais, là, c'est parce que je commence à avoir mon numéro. Ah, on a des amis en commun. Okay, whatever. Là, j'ai appris là, que vous allez dire telle affaire, puis si, puis ça, puis c'est pas vrai, puis tati, puis tata. Bon, j'essaie de rectifier le tir, c'est correct. Ben, je dis, moi, selon mes sources, c'est vrai, fait que je vais le sortir pareil. Bon, ben, il dit, si tu fais ça, parce que là, il me tutoyait comme si on avait élevé des cochons ensemble, finalement. Il dit, si tu fais ça, ben, à la conférence de presse de 1 heure, le premier ministre va te planter.
Ben, je dis, voyons, non.
Je te jure, il me plantera. Puis là, il me dit, ouais, là. Il dit, là, Yuan Liu, ça, c'est une espèce d'intellectuel. Nous autres, on a besoin d'un gars de terrain comme Arruda. Puis lui aussi, j'écoute bien, là, est nommé par Médecins sans frontières dans le top de la liste, là, versus ton mangeur de machin portugais, là, je veux dire, arrête, là. Wow, mais là, c'est comme si toi, on disait, veux-tu écrire des chroniques avec Bob Côté? C'est vraiment une super analogie. T'as vraiment idéal. Et là, il dit, après, sur Facebook, regarde bien ça. J'écris, bon, ben là, je viens de me faire blackmailer par un employé du PM, blablabla, pis ça. Fait que là, évidemment, ça part en vrille. Il est tellement tata, il me texte. Là, t'es avocat, secret professionnel, là, est-ce que tu n'as pas moyen de.
Ouais, mais c'est pas ton client.
C'est comme, OK, t'es rendu mon client, puis je suis pas au courant. Là. Non. Après ça, on se demande pourquoi ça va mal, cette gestion-là au Québec. Je dis, oh! Puis là, il dit, là, t'as pas d'affaire à faire ça, puis gna gna gna, il m'a plein d'eau barreau. C'est Chris, plains-toi qui tu veux. Je dis, by the way, j'ai ton texto, là. Je dis, ça, c'était vraiment épais, là. J'ai entendu parler. Mais tout ça pour dire que, tu sais, tu peux pas. Regarde, il faut que tu acceptes la critique, puis il y a de la critique qui est légitime, il y en a de la critique qui l'est moins. Mais eux autres se sentaient tout permis. Tu sais, les libéraux de Charest puis de Couillard, là. Je t'ai ramassé, c'est un moyen temps, là. Je pense que c'est arrivé une fois en 8 ans qu'une de mes amies qui était chef de cabinet d'Hélène David a dit, là, mon beau Fredo, tu y vas fort un peu à matin. That's it!
C'était-tu la fois qu'elle se fouillait dans le nez? Ou
Non. Une autre fois, c'était ça. Okay. Fait que, ça pour dire que moi, ça là-dessus, je parle... ça, c'était épouvantable. Mais je partage votre appréhension parce que je ne sais pas si c'est lié avec les questions de subvention, mais reste que cette tendance-là, elle commence à se créer. puis elle commence à se... Puis le média, finalement, il est beurré. Tu sais, si t'es subventionné, t'es fait. Si t'es pas subventionné, à quelque part, t'es fait aussi, dépendamment du point de vue. Bref, écoute, c'est un beau bordel, cette affaire-là, mais moi, j'en appelle aux politiciens de garder une certaine décence. Parce que si tu commences à franchir cette ligne-là, ça finit plus, là.
Mais c'est ça le problème, je pense, c'est que tu le sais très bien, en ayant une formation de droit, en étant dans ce milieu-là, tout est une question, à un moment donné, de règles et d'incitatifs, puis de normes qui sont respectées ou qui ne sont pas respectées. T'sais, si on franchit la limite de dire... Ah, ben, gardez, il n'y a pas de problème, financez les médias, beurrez-les, puis on va se fier sur votre intégrité, votre bon jugement pour ne pas dépasser la ligne d'essayer de créer un système de chantage avec ça. Ben oui, ça va marcher si t'as, je sais pas, moi, Lucien Bouchard ou je sais pas qui, puis maintenant, il va en arriver un autre, puis lui, il va se dire, ah, regarde, lui, là, ce crétin-là, je vais passer un coup de téléphone pour lui dire que sa chronique de marde à mon sujet, il aurait pu s'en passer, puis là, tu sais, il y en a des gens comme toi ou comme d'autres, que ça leur passe 10 pieds par-dessus la tête. Mais moi, je soupçonne qu'il y a des gens qui font dans le culotte là, quand il y a un téléphone de même qui arrive. Là.
Ben c'est sûr que si tu es capable de... L'exemple que vous donniez tout à l'heure, là, un média de région déjà, là, qui c'est pas facile pour eux autres, surtout depuis que Meta a tiré à la plug. Là. Média de région qui se fait appeler, dire « Tu veux-tu qu'on continue de subventionner ou pas? » Écoute, puis je vais t'en raconter un exemple, c'est drôlement pertinent, puis là, on monte dans les sphères un peu, puis tant mieux. Pierre-Carl Péladeau, ça, c'en est une bonne histoire, je pense, pour vous autres. Moi, je... Comment je te dirais ça? Tu sais, dans le temps de l'Arena à Québec, là?
Oui, oui.
Il y a des gens qui sont venus me voir à Montréal, parce qu'il y avait besoin de... Là, il faut que je fasse attention, là, parce qu'il peut y avoir un peu de secret professionnel, là, mais parce qu'il n'y avait pas personne à Québec qui voulait s'occuper de leurs affaires, okay? Disons ça comme ça. Je dis, pourquoi vous venez voir à Montréal? Je dis, c'est parce qu'à Québec, si on s'occupe de ça, on est mort. Okay? Puis là, je commence à avoir de l'info un peu, c'est intéressant. Puis je décide d'écrire une chronique que j'écrivais à Droit Inc. dans le temps. Puis là, écoute, je me gâte. Puis je dis que cet aréna-là, qui est subventionné dans le tapis, on le sait, le 100% de subvention, il y a une clause qui était bien importante de comprendre puis qui est passée un peu sous le radar, la clause étant la suivante, c'est que si on fait des profits, les profits sont empochés par Québécois à une hauteur, je ne me souviens plus, oui. Mais 80-20, puis s'il y a des pertes, bien c'est l'inverse.
Ça prenait quasiment une équipe à temps plein NHL qui avait du succès pour avoir ça, là, on s'entend.
Non, mais tu sais, OK, bien, si on fait de l'argent, c'est à moi, puis si on en perd, bien, c'est à vous autres. C'est pas pire. Puis là, moi, j'avais su que Radio-Canada n'avait pas voulu travailler là-dessus. Ils avaient commencé à travailler là-dessus, mais là, ils ont dit, ah, on va se faire poursuivre, puis blablabla. Bla, bla,
fait que Gerbet n'était pas là encore, dans le fond.
Pardon?
Gerbet n'était pas là encore. Non.
Puis là, moi, l'innocent, je dis, bon, regarde, moi, je vais l'écrire. Puis je l'ai écrit. Ça n'a pas été long que j'ai perdu ma job parce que Québécois a appelé Douaïn pour me faire sacrer dehors, puis tati, puis tata, puis ça a fait toute une histoire. Puis c'est surtout Douaïn qui m'a fourré dans cette histoire-là. Québécois, au final, après, je suis allé voir, parce que moi, je travaillais à TVA, je travaillais pour Denis Lévesque dans ce temps-là, temps plein. Ils m'ont mis dehors de TVA. J'ai tout perdu là, d'un coup, là. Ça s'est fait vite. Là. Puis j'avais un livre qui sortait, c'était en 2014. Puis l'un de mes chums qui travaillait pour Québécois à l'époque, il dit, je dis, moi, je sors cette histoire-là. Là. Mais mon chum m'a dit, tu sais, Bérard, je t'aime bien, là, mais ce qui va arriver si tu sors cette histoire-là, là, c'est que déjà que tu as perdu ta job à Douaïn, déjà que tu as perdu ta job à TVA, parce que bon, tu as un livre qui s'en vient, je dis oui, ben il sortira pas. La maison d'édition n'appartient pas à Québécois. Il dit non, mais qui c'est qui l'imprime, ton livre, tu penses? Je dis, vous êtes des malades. Puis je dis, pire que ça, après ça, il va y avoir une lettre qui va être écrite. Je le sais, c'est moi qui vais l'écrire. Puis c'est comme quoi que tu as volé dans le petit cash de Douaïn. Puis c'est pour ça qu'ils t'ont mis dehors. Je dis, vous êtes des méchants malades. Ben, il dit, ouais, il dit comme ça. Fait que là, je peux le dire aujourd'hui, comment ça s'appelle? Le McLean's.
Oui.
Martin Patriquin, qui est un très bon journaliste.
C'est lui qui avait fait l'article de la corruption avec le bonhomme carnaval.
Il s'était fait ramasser parce que hey, ça attaque l'identité du Québec, ça, le bonhomme carnaval. Alors, les gars. Puis Patriquin avait fait un truc sur Péladeau qui s'appelait « The King of Québec ». Et il y a un passage, il dit, il y a un chroniqueur qui a perdu sa job là-dedans. Ça, c'était avant qu'il se présente en politique. Il y a un chroniqueur qui a perdu sa job parce que tout ce que j'ai dit, c'était la vérité, là. Je ne l'ai pas inventé, je ne l'ai pas
compris. Le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est un fait qui est connu, cette clause-là. Et quand ça a sorti, dans le public, là, ça a fait bof. Le Québec s'en est calissé, à toute fin.
Ben, oui, puis tu sais, oublie pas que la bombe, dans le temps, il était chummy-chummy avec Québécois, là. Yep. Il allait dans l'hélicoptère de TVA. Ben,
c'est lui qui était le cérémonier du mariage princier. De... Les gens ont oublié ça, là, le mariage à la place royale. Là, que, ben oui, c'est Labeaume qui était l'officiant du mariage entre PKP et Snyder.
Moi, on m'avait dit à TVA, parce que je l'avais brassé une couple de fois, Labeaume en ongle, notamment quand il avait dit... je parlais de la séparation des pouvoirs, puis là, il m'avait répondu, je ne sais pas quoi, là. Un gouvernement, c'est souverain, ça, souverain, ben non, il est souverain dans une certaine mesure, mais s'il y a une séparation des pouvoirs, ça veut dire qu'il y a des contrepoids, tu sais, en tout cas, bref. Puis là, il avait appelé à TVA, lui, ce petit Chris-là, vous allez me le mettre dehors, blablabli, blabla. En tout cas, cette fois-là, ils m'ont gardé, mais quand c'est venu à mes oreilles, j'ai dit, coudonc, aussi, il est bien énervé, votre chien de poche, là. Il dit, hey, la bombe, écoute ça, il dit, la bombe, c'est pas un ami de TVA, c'est un associé de TVA. Associé. Dans le sens où la bombe, tu touches pas. Bon. Et il est rendu où la bombe? Il écrit à la presse maintenant. Pourquoi? Parce que je pense que cette année, tu signes un chèque pour rembourser les pertes du bon gestionnaire du détecteur de fumée.
Écoute, attaquer la ville de Québec via l'aréna, je veux dire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de clash avec moi puis Frank. Je veux dire, on n'était pas des grands partisans de la méga subvention publique qui allait vers ça. No. Par contre, une chose que tu attaques souvent avec la Ville de Québec, c'est le troisième lien de ton bord. Fait que c'est sûr qu'on va en parler. On n'a pas le choix. T'as des choses aussi sur le lobby pétrolier. Tu en parles souvent, même dans ton livre. Tu donnes l'impression qu'il y a un lobby pétrolier très puissant au Québec, alors que dans notre perspective, c'est loin d'être le cas. Là. Je veux dire, il y a quand même un moratoire sur l'exploitation des gaz de schiste au Québec, là, je veux dire.
Mais attends, juste te corriger, à moins que j'ai écrit quelque chose que je ne me souviens plus, ça peut arriver, mais je ne pense pas avoir dit que les lobbies pétroliers sont très forts au Québec. J'ai-tu écrit ça?
Ben, en tout cas, c'est dans le coin que ça...
Si je l'ai écrit, ce n'est pas ça que je pense.
C'est bon, c'est correct. Mais l'idée...
C'est parce que c'est dans un texte que tu as écrit...
Parce que je me l'ai envoyé hier, c'est pour ça que j'avais accroché.
Et un texte qui a été écrit le 30 mars 2022, il y a une phrase, il y a comme un paragraphe où tu dis « Le lobby pétrolier est trop puissant, nos pantins trop bêtes pour orienter nos efforts, recherche et fric vers une politique verte d'une valeur de plus de 100 milliards de dollars. » Puis là, comme deux phrases plus loin, tu parles de Legault, puis là, tu dis « Amenez-le votre troisième lien, les copains. »
C'est ça. La question part de là, effectivement.
Oui, j'avoue que c'est pas très clair, mais quand je parlais du 100 milliards de dollars, c'est plus au niveau fédéral. Quand je parle des lobbies, là, évidemment, avec Trudeau et compagnie qui se sont fait pitcher la nécessité d'acheter un pipeline. Ça, c'est quand même assez jambon. Là. Puis le reste, le truc du 100 milliards, c'est que c'est démontré actuellement, une étude de l'année passée, ou il y a 18 mois peut-être, qui disait qu'il y a 100 milliards d'énergie verte qui dorment au gaz, c'est le cas de le dire, au Canada, actuellement, bloqué par le lobby pétrolier. C'est à ça que je faisais référence, pas clairement au Québec, mais là, je comprends l'espèce de confusion avec le troisième lien, là, mais je parlais vraiment dans l'ensemble.
Ben, je pense que dans ton style littéraire, tu tires quand même beaucoup partout là, dans des chroniques, là, avouons-le. Là, c'est quand même... Il y a un certain fil conducteur, mais il y a des punchs.
Il y a des jabs un peu. Là,
il y a le jab facile. Mais ça semble être quelque chose que tu utilises beaucoup quand même, le troisième lien. Tu as quelque chose contre ça. C'est quoi ta thèse de ton côté comme Montréalais? Qu'est-ce que tu as contre ça? Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette histoire-là?
Oui, juste préciser, là je suis à Montréal, mais je suis assez rarement à Montréal, en fait.
Tu as l'air de faire le tour de la boule pas mal, de ce que je comprends.
Oui, je me promène pas mal, mais j'ai une maison à Saint-Michel-des-Saints, dans le fin fond de la Naudière,
okay.
Où j'habite souvent, puis à côté de la réserve de Manawan, en fait. Et je suis originaire, moi, de Mont-Laurier. J'ai vécu mes 20 premières années là, puis j'y vais quand même assez souvent encore. Donc, moi, je ne me suis jamais qualifié de Montréalais. Là. J'ai une adresse ici, en fait, mais puis j'aime Montréal, là, ceci dit, là, mais j'aime autant Québec par ailleurs. Puis je n'ai même pas ça pour vous têter. Là. D'ailleurs, je vais passer 3-4 jours chez vous, là, du 11 au 15 ou quelque chose de même. Mmh. Puis moi, ça n'a jamais été un truc de... « Ah, Québec a un aréna. » Tu sais, je m'en crisse de ça, honnêtement. Puis je trouve que, vraiment, là, que Québec a bien le droit, puis c'est bien légitime d'avoir des infrastructures dignes de ce nom pour une capitale nationale. Tu sais, ça ne m'achale pas pantoute. Le truc de l'aréna, c'est la subvention à 100%.
Ouais, c'est le montage.
Ouais. C'est juste ça, moi, qui m'achale. T'sais. Ça avait été une subvention 100% pour une coop, machin. Honnêtement, je pense que comme gars de gauche, ça ne m'aurait pas dérangé vraiment. T'sais. C'est vraiment le volet québécois. Pour le reste, le troisième lien, moi, c'est toute l'espèce de démagogie. Puis là, on le voit encore, là, Drainville est allé dire hier, si tu es à Lévis, finalement, ça s'en vient. T'sais, c'est l'amateuriste de la CAQ. La CAQ, s'il y avait un sondage léger qui disait « Hey, les Québécois veulent manger du carton, est-ce qu'ils nous en livreraient des boîtes? » Là, ils n'en ont rien à crisser du bien commun. Ça ne les intéresse pas. C'est juste sondage, puis par-dessus sondage. « Hey, si on envoie des chèques de 500$ à du monde qui n'en ont pas besoin, ils vont voter pour nous autres. Let's go. Ah ouais, on vide les fonds publics. » C'est ça. La CAQ, il n'y a aucun gouvernail, il n'y a aucune vision. Il n'y a aucun intérêt pour le bien commun. Il y a un intérêt pour les sondages légers. Ouais. Il n'y a pas où le 600-700 millions du fédéral pour ventiler les écoles pendant la pandémie. Personne ne le sait. Moi, j'ai un indice, par exemple. Ça s'est dépensé dans des sondages sans appel d'offres allégés, esti, qui est leur chenille, puis ça retourne. Moi, tu vois, puis le troisième lien, les études, puis là, peut-être que vous allez pouvoir m'obstiner à juste titre. Mais ce que j'ai compris des études universitaires là-dessus, puis pas Bernard Drainville qui est sur le pont puis qui est tanné, là, une vraie étude, c'est que ça va garocher 50 000 chars de plus sur les routes, si c'est vrai. Est-ce que c'est ça la voie de l'avenir? Je pense pas, non. Puis s'il y avait une contre-étude sérieuse, pas de Patoff le clown, puis pas de mon ressenti, là, ben là, j'écouterais, mais j'en ai pas vu de ça. Ouais.
Mais honnêtement, je pense que... Le débat a été comme un peu détourné sur cette question-là parce que c'est comme devenu le symbole de l'amateurisme caquiste, finalement, le troisième lien, dans le sens que on le fait pas. C'est-tu un pont, c'est-tu un tunnel, même pendant la campagne électorale.
À l'Est, à l'Ouest.
Même pendant la campagne électorale, Duhem avait essayé de lui faire dire est-ce que vous avez des études sur ça va être un pont ou un tunnel? Il avait dit non, oui. Puis le lendemain, il était avec Christian Dubé qui donnait des coups de coude, genre non, Chris, il n'y a pas d'études. C'est devenu un peu un symbole du n'importe quoi. Fait que je comprends que des gens par opposition politique, ben pas par opposition politique, mais tu sais, c'est comme devenu tellement une incarnation de ce qui ne fonctionne pas dans le gouvernement québécois que la position facile, c'est de dire c'est de la merde. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il n'aille parce que bon, c'est de la merde. Mais originellement, si on remonte à le projet initial, parce que la CAQ a récupéré politiquement ce projet-là. Mais la personne qui a initié ce projet-là, c'est un gars de la Chambre de commerce de Lévis qui disait ben le pont de l'île d'Orléans est à refaire, et le pont de Québec ne nous appartient pas, il appartient au CN. Pour passer, ne serait-ce que n'importe quel projet, par exemple, de transport en commun, il faudrait modifier le tablier du pont de Québec, ce qui nécessiterait des coûts faramineux. Éventuellement, c'est un pont qui a genre 120 ans, il va peut-être être fermé à la circulation. Un jour, plutôt que de le remplacer par un pont collé après l'autre, on devrait pouvoir faire le quadrilatère de Québec-Lévis en remplaçant en faisant comme d'une pierre deux coups. Tu remplaces, par exemple, le pont qui va à l'île d'Orléans avec un pont qui traverse dans le coin de Beauport à l'est, puis que là, tu peux traverser puis faire le tour comme ça sans que les gens qui partent du bas du fleuve, par exemple, traversent toute la ville de Lévis puis après ça, traversent toute la ville de Québec pour aller, par exemple, à Saint-Anne-de-Beaupré, ces places-là. Je pense que le projet original, il y avait une logique à ça, mais c'est la CAQ qui est arrivée de nulle part avec son méga tunnel qui allait être le plus gros au monde avec un tunnelier qui n'existait même pas pour le faire. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça qui a tué
Je suis content que tu dises ça. J'avais entendu parler vaguement du projet initial, mais tu sais, moi, que ce soit bien, bien clair, là, c'est pas le fait que, comme Montréalais, Québec, tu sais. Je veux dire, non, Québec a... C'est nécessaire, en fait, que Québec et les environs aient des infrastructures dignes de ce nom. C'est pas un enjeu, ça, pour moi. Le reste, je m'y connais pas du tout. Je te fais confiance à 1000%. Savoir, on pensait ci, ça, puis là, ça se crappe après. Mais de ma vision de gars qui vit pas à Québec, ce projet-là pouvait pas être plus mal foutu. Tu sais, j'ai Geneviève Guilbeault qui arrive avec des papiers blancs. Est-ce que tu peux croire que c'est des... Non, mais c'est parce que Chris, là... Vous voulez qu'on pote 10 milliards dans un... Vous n'avez même pas un dessin pour être capable de nous expliquer ce qu'il y en est. Puis tu as Drainville qui est un des plus grands démagogues de l'histoire du Québec. T'sais, il en est quasiment attachant, tellement qu'il n'y a pas d'allure. Là, chez moi, avec les GES, là, chez moi, c'est comme... faites-vous exprès. D'ailleurs, si tu vois, si c'était à refaire, là, la CAQ n'aurait pas pris Drainville la dernière élection. On va dire, regarde, sais-tu, on va laisser faire. Je ne veux même pas juste tirer sur le messager, parce que rendu là, ce n'est même pas nécessaire. Il se tire lui-même dessus à journée longue, puis il se tire entre eux autres. Mais au-delà de ça, sur la question du fond, puis là, on n'est pas obligé d'être d'accord non plus. Mais moi, le petit volet de la chronique que tu disais tout à l'heure, puis je ne m'en rappelais pas vraiment, mais moi, ce que je dis depuis un bout de temps déjà, c'est qu'on a des réflexes de « on va faire comme avant tout le temps », alors qu'il y a une possibilité d'innovation avec des compagnies souvent québécoises, canadiennes, qui sont freinées ou en fait qui ne sont pas encouragées puis devraient l'être. Par exemple, en Saskatchewan, juste un petit exemple vite fait, ils sont en train de développer une technologie de géothermie avec des anciennes pétrolières qui vont dans le sol à X kilomètres, fouille-moi quoi, et avec cette garoche de l'eau là-dedans, ça coûte à peu près que dalle, puis ils sont en train de créer quelque chose. T'sais, ça, je trouve ça, puis là, ça n'a rien à voir avec le transport en commun, mais ça, je trouve qu'on est tellement dans les ornières de ce qui s'est toujours déjà fait qu'on passe à côté de trucs qui sont vraiment fantastiques, à mon avis, si évidemment ça tient la route. Moi, je ne suis pas ingénieur, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique non plus, mais je trouve qu'on devrait mettre l'accent là-dessus bien plus que sur les vieux réflexes, acheter un pipeline que les États-Unis veulent pas. T'sais.
Mais tu sais, comme tout est politique, là-dessus, je peux donner un point à Bocoté. Il avait dit ça une année dans une chronique. Je pense que sur ce point-là, il avait absolument raison. Le problème, un des problèmes au Québec, c'est que même nos routes sont devenues des sujets politiques. T'sais, on a politisé l'entièreté des infrastructures. Le toit du stade est un sujet politique. Il y a un autobus électrique quelque part, c'est un sujet politique. Puis tu sais, honnêtement, l'aspect technologique là-dedans, je pense, est fondamental. S'il y a des avancées technologiques dans un domaine, je pense qu'on serait complètement idiot de s'en priver. Mais on dirait qu'on est toujours un peu sur les mêmes vieilles recettes. Ça, effectivement, là-dessus, c'est pas moi qui vais m'obstiner là-dessus. Mais juste le dernier point que je voulais finir, c'est comme tout est politisé, ça permet aux acteurs politiques de dire finalement tout est leur contraire. Parce que je rappellerai aux auditeurs que dans la dernière campagne, le Parti québécois avait proposé un projet de tunnel qui était un tunnel uniquement dédié à faire passer des bus ou je ne sais plus trop quoi. Quand la CAQ est arrivée avec Geneviève Guilbeault et son paquet de cartables vides, ce qu'elle a annoncé, grosso modo, c'est en fait l'abandon de leur projet pour récupérer le projet du PQ. Parce qu'elle, ce qu'elle a dit, c'est « Bon, finalement, on abandonne le volet autoroute. » Tout le monde a retenu qu'ils ont flushé le troisième lien. Mais ce qu'elle avait vraiment dit, c'est « On abandonne le projet autoroutier puis on garde juste le volet transport en commun. » Ce qui était, grosso modo, le projet de PSPP. Je sais même le nom de sa candidate qui parlait de ce projet-là. Mais ils ont quand même, le PQ a quand même trouvé le moyen d'être contre. Donc, c'est votre propre idée. Et là, eux sont sortis en disant, là, la CAQ ment. Tu sais, donc, tout est tellement devenu politique que pour vrai, je me mets dans la place du citoyen qui est comme, c'est même plus lui, es-tu pour? Tu sais, PSPP, es-tu pour? Es-tu contre? Plus personne ne sait rien. C'est, tout le monde fait n'importe quoi. Puis après, ben je pense que le résultat, c'est un peu ce que tu disais tantôt. Moi, je regarde ça de Montréal, je dis, Chris, ils font n'importe quoi. Finalement, ce projet-là, c'est de la merde, tu sais.
Tu sais, juste préciser, moi je vous parle d'Hochelaga, là. Le stade olympique, là, je peux lancer des roches dessus. Là. Je suis à côté. Là. Et tu sais, sur le truc du toit, bon, OK, 700 millions, c'est de l'argent. Là. Mais bon, OK, as-tu besoin? On va-tu garocher ça à terre? T'sais, je ne sais pas, moi, je ne suis pas ingénieur, mais quand je vois la CAQ, je me dis, ah, là, garocher le stade à terre, là, ça serait 2,5 milliards, peut-être 3. Là, j'ai écrit ça. Mais là. Puis là, il y a des études qui me montrent que ah ouais, à Baltimore, là, pour pas faire de mauvaises références, mais tel stade, ça avait coûté 22 millions, puis tel autre
ouais, côté,
ça avait coûté 33 millions. Écoute, c'est parce que je comprends qu'on est peut-être plus lent, puis moins efficace, puis peut-être un peu plus nono qu'ailleurs, là, mais entre 2,5 milliards puis 25 millions, il me semble qu'il y a peut-être une marge entre les deux. Fait que là, tu réalises qu'ils sont en train de nous bullshiter total. Puis là, arrive un moment donné où, tu sais, comme disait Anna Arendt, tu mets en population en permanence, puis à un moment donné, la population, elle ne sait plus qui croire, elle ne te croit plus, puis là, tu n'as plus de rationnel, puis tu fais n'importe quoi, puis ça revient exactement à ce que tu disais. Chaque parti politique va y chercher son anane s'il pense qu'il y en a un, puis le bien commun là-dedans, ben il passe dans le drain, tu sais, au final.
Ouais. Yann, je ne sais pas si tu allais ajouter quelque chose. On s'approche, il reste quelques minutes. C'est un deux, trois minutes. Dernier point, vas-y.
Ben écoute, honnêtement, l'entrevue, je l'ai trouvée spéciale dans le sens que tu es clairement un bon raconteur. Ton livre est un résumé de chronique qui tire dans beaucoup de directions. En fait, Frank, en pré-show, ben, avant qu'on ouvre, en fait, me disait... Il est un peu comme Boc-Côté Bérard. J'ai dit, OK, c'est quoi le point en commun? Il dit, comme Boc-Côté, il parle presque jamais d'économie. Donc, grosso modo, beaucoup de tes chroniques portent sur les sujets qui sont très nationalistes ou antinationalistes ou multiculturalistes, beaucoup dans le culturel, autrement dit, où ça va aussi un peu avec ta formation. Je veux dire, avocat constitutionnaliste, t'as beaucoup de propos à tenir, par exemple, sur la loi 96, où est-ce que tu vas nous rejoindre énormément de ce côté-là. C'est ton dada, mais l'économie fait très peu partie de ton discours. C'est quelque chose que j'ai toujours reproché avec Boc-Côté. Réciproquement, lui, de son côté, il dit « Tu penses rien qu'à l'argent? » Mais bon, ça, c'est un autre affaire, tu vas dire. Mais, tu sais, je pense qu'on est capable d'avoir des constats qui sont sensiblement pareils dans l'amateurisme du gouvernement, l'inefficacité au niveau de la délivrance des services, tout ça. C'est juste que j'ai l'impression beaucoup les solutions de la gauche sont beaucoup plus de ce qui ne marche pas, plus de fonctionnaires, plus de programmes, plus de subventions, alors que nous autres, on prône vraiment plus. Non, non, arrêtez de demander ça à l'État, plus de compétition, enfin, impliquer les compagnies privées, enlever les décisions de ces estides incompétents-là. tu sais, je veux dire, on a souvent des constats qui peuvent se ressembler avec la gauche. C'est définitivement au niveau des moyens que ça clash énormément. Si, mettons, je te force à répondre à une question économique, comment tu vois le futur au niveau économique? Qu'est-ce qu'on devrait faire mieux au niveau économique pour améliorer le Québec? Puis probablement que c'est là que tu vas clasher le plus avec nous, évidemment.
Ben, tu vois, juste un petit détour vite. Là. Tu sais, quand tu parlais multiculturel, moi, je me considère même pas multiculturaliste comme tel, parce que pour moi, ce terme-là, il ne veut absolument rien dire. Je pourrais même être un peu nationaliste, c'est bas. Tu sais, je suis très francophile, très, très, très francophile. Moi, ce que je trouve qui est important, c'est qu'on protège les droits fondamentaux. Ça, j'y crois. Puis c'est ça qui est en train de prendre le drain avec l'extrême droite puis ce discours populiste-là. C'est ça, moi, qui m'anime comme tel. Ferme la parenthèse. Tu as raison de dire l'économie, j'en parle à peu près pas. Puis c'est parce que je suis assez honnête pour admettre que je connais pas ça. Tu sais. Puis quand je m'ouvre la gueule sur assez d'affaires dans la vie, que les sujets que je connais pas, j'essaie de me taire, mais évidemment que je suis de gauche, là, ça n'apprend rien à personne. Je suis vraiment pas woke, par ailleurs, là, ceci dit. Là, je vois les dérives du wokeisme, là, tu sais, je suis pas épais, là. Il mérite d'être... Pour moi, c'est pas aussi important que la vague d'extrême droite, mais en tout cas, rendu là, c'est un autre débat. Puis sur les questions purement économiques, tu vois, ça revient à ce que je vous disais d'entrée de jeu en intro. Moi, je suis content que vous existiez, que ce podcast-là existe. Je suis content que Duhem est débarqué dans l'arène politique aussi, plutôt que tenir ça dans une radio peut-être un peu fermée, je ne dirais pas, parce que c'était très
populaire. C'est régional.
Mais ça restait quand même un peu régional. Puis moi, Duhem, tu sais, by the way, quand je vous parlais de ma maison à Saint-Michel...
C'est ton voisin de chalet, c'est ça, j'ai compris dans le livre.
C'est mon voisin de chalet pendant...
c'est vrai, il restait là, lui.
Puis tu sais, on se côtoie, on est déjà allé souper ensemble, puis on n'est pas d'accord sur bien des affaires. Mais on a une bonne relation. Des fois, il m'appelle « Qu'est-ce que tu penses de tel truc? » Il m'a invité au congrès des conservateurs pour donner une conférence en droit constitutionnel.
Mais là, tu vas être banni de la gang. Là, si
non,
tu
mais moi, je fais aucun... Le PLC m'a demandé la même chose. Je vais pas à ces affaires-là parce que je veux garder mon indépendance, même si bon. Bref. Tout ça pour dire que moi, quand je vous suis, puis j'entends des trucs sur l'efficacité, puis si, puis ça. Mais évidemment, moi, je suis pas en faveur de garrocher de l'argent public par les fenêtres. Je suis pas un épais, là. La question, en tout cas, je pense, la question, c'est de savoir c'est quoi la meilleure solution. Puis parfois, de revenir, en fait, pas de, je ferme cette parenthèse-là encore une fois, mais que cette dialectique-là revienne dans le débat public un peu à la sauce à des kiss à l'époque, sans trop généraliser, où on disait, bon, ben là, est-ce que c'est mieux plus de privé, moins de privé, si, ça.
Ben, moi, la DQ en skippant le volet 2007 qui était complètement raisonnable. Là,
oui, oui, là, ça a flippé puis ça a donné naissance à tout le reste. Mais moi, je regarde ça un peu du coin de l'œil puis je trouve que c'est important qu'il y ait ce genre de débat-là. Parce que je trouve que ce sont des débats intelligents, honnêtement. Je trouve que c'est des sujets importants. Est-ce que je me sens suffisamment compétent pour intervenir dans le débat? Non. Moi, je pense que le rôle de l'État, ça, c'est ma petite posture pour ce que ça vaut, que le rôle de l'État, ce n'est pas le rôle d'un dépanneur, ce n'est pas le rôle d'une entreprise privée, c'est de gérer un peu le trafic. Tu sais, je suis un peu keynésien, c'est bar, disons ça comme ça. Mais pour le reste, quand on rentre dans les trucs un peu techniques et tout, moi, je laisse ça aux experts ou à ceux qui se connaissent pour la peine, ce qui n'est pas mon cas. Fait que pour le reste, qu'est-ce qui se passe économiquement avec le Québec? Écoute, moi, ce qui m'écœure le plus, c'est que quand Legault dit « Ah, moi, je suis à gauche », qu'est-ce quoi ça, t'es à gauche? C'est qu'il me dit n'importe quoi juste pour faire plaisir à une couple de journalistes. Il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas national. Il n'a aucune vision. Il est à la guidonnerie, c'est ça qui est.
S'il dit qu'il est à gauche, il faut que tu lui demandes à quelle heure. C'est à quelle heure? Ça, c'était à 8h ou à 10h? Parce qu'à 10h, ce ne sera plus pareil.
Puis là, désolé, là, mais tu sais, comme Hélène Buzetti, je suis à l'extrême centre. Hey, c'est confortable en esti, ça là. Ah oh, ouais, moi, je m'assois là, puis là, oh non, non, ça c'est trop. Oh non, non, ça c'est. Arrête, esti, là, ça n'existe pas, ça, l'extrême centre. Il y a une dialectique dans les débats sur tous les sujets. Puis là, esti, ben, ça donne que des fois, on se pogne. Puis des fois, ça donne que ça se pousse à gauche, ça se pousse à droite. Mais d'aller s'asseoir dans le milieu comme la Suisse, esti, puis jouer au moralisateur, là, sérieux, moi, je trouve ça. Puis savez-vous quoi sur le truc, le débat sur l'indépendance? Moi, je suis content que ça revienne, ce débat-là. Je suis vraiment content.
Honnêtement. Ah ouais?
God. Oui, vous n'avez vraiment pas l'air, mais j'ai voté oui en 95. Puis je serais prêt à revoter oui un jour si on avait de l'allure. Là. Puis là, pour tout de suite, j'ai encore des doutes, mais en tout cas, on verra. Mais d'avoir un débat comme celui-là, puis quand vous pognez PSPP en disant ça, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. André Pratt, il y en a bien qui ne l'aiment pas. Moi, je l'aime beaucoup. Qui lève le flag, ça, ça n'a pas d'allure, ça, c'est de la bullshit. Ça. On veut ça. C'est-à-dire, on veut ça d'une société. Là. C'est ça, la démocratie. Ouais. La démocratie, c'est l'art de convaincre, puis l'art de se laisser convaincre aussi quand c'est le temps. Fait que, bref, moi, je considère que ça, c'est des sujets intéressants, intelligents, importants pour un peuple, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord sur le fond ou même sur la formule, mais bien plus que des petites affaires de drag queen, les toilettes mixtes, puis est-ce qu'il y a d'un culotte des autres. Ça, vraiment, là, je m'en fous pas mal, franchement. Là. Je ne sais pas c'est quoi l'obsession de vouloir toujours réglementer ce qu'il y a dans les bobettes d'autrui, là, mais cette espèce de propension-là, je la trouve hallucinante. Fait que n'importe quand on parle d'économie, n'importe quand on parle d'indépendance ou de fédéralisme, on parle de gauche, de droite de manière générale. Mais tu sais, les affaires de marginaliser des minorités qui sont déjà, je trouve ça vraiment jambon, honnêtement.
Non, je comprends. Mais dernier point, très rapidement, tu parles depuis le début, là, tu sais, avoir un clash d'idées, faire des discussions, tout ça. Tu sais, je pense que là, aujourd'hui, bon, c'est deux groupes différents d'idées qui se rencontrent, puis je veux dire, personne n'est mort, là. Je veux dire, en tout cas, là, le podcast va se terminer, je pense que ton intégrité n'a pas été attaquée, ni moi, ni Yann non plus, je pense qu'on est correct. Comment t'expliques ça qu'au Québec, on ait, je veux dire, pour vrai, là, il y a un ancien candidat de QS qui nous a parlé deux fois, ça n'y a pas dérangé, Julien Cardinal, qui je pense qu'il est maintenant avec le Parti Vert.
Il est au PQ, non, Parti Québécois.
Ah, il est retourné au PQ. Yes. Bon, il y a toi. Mais pour vrai, je veux dire, on a invité plein de monde au fil du temps, puis les gens sont terrorisés de parler aux autres, je sais pas. Pourtant, allez écouter tous les podcasts qu'on fait. On a reçu Philippe Couillard, on a reçu Mathieu Bocoté, on a reçu Buzetti, on a reçu Duhem, on a reçu toi, on a reçu Monsif des Radji, des libéraux. T'sais, on a reçu plein de monde. On n'a jamais, battu personne. Il n'y a personne qui a été... je comprends pas cette peur-là collective. On dirait qu'au Québec, on est traumatisé par la discussion, là.
Quand j'ai reçu cette invitation-là, je connaissais, je savais que vous existiez, mais je n'avais pas suivi assidûment. Puis il y a des gens qui ont vu les échanges où vous m'invitiez. Là, dans
ça avait monté du 25-30 000 quand même.
Là, le monde m'écrivait en privé, « Va jamais là, c'est un dîner de con, tu vas te faire avoir, blablabla. » Puis pas rien qu'un, là, tu sais, une trollée, c'est des astines malades. Là, vous aviez votre gang qui... T'es un asti de pissou, mais là, tu peux pas y aller, là. C'est OK, regarde.
C'est vrai.
Calmez-vous. Puis j'étais en Amérique centrale pendant un mois pour faire des reportages chez Droits humains. Puis il y en a encore de votre gang qui. Tu t'en vas te sauver en Amérique centrale, t'as peur d'aller aussi. Là, ça va, là. OK, j'ai pas rien que ça à faire non plus.
Puis, ouais.
Moi, quand je t'avais dit oui, je me dis, ben, c'est pas si pire que ça, là. Puis d'ailleurs, ça a été fort agréable, je vous en remercie. Puis je trouve que, ben, par ailleurs, on ne s'est pas poigné sur grand-chose. On peut même dire qu'on ne s'est pas poigné.
Caroline, j'ai essayé pourtant.
Puis même si on s'était poigné, puis
C'est ça, j'ai envie de dire. Moi,
c'est pas grave, je veux dire, en France, ils se pognent à journée longue. Il arrive à un moment donné où là, bon, ça devient désagréable. Mais une bonne discussion franche, puis tu donnes une couple de claques en arrière de la tête. C'est pas grave, là, ça fait partie de la game aussi.
Mais sans le savoir, tu as mis le doigt sur quelque chose. Hein? Les groupes sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, là, je pense que c'est la pire plateforme de ce côté-là. Nous, ce qu'on observe, là, c'est que là, on voit. Puis même, c'est une petite référence à quelque part dans ton livre, Les Pirates. Là, les pirates qui sont, à toute fin pratique, les abonnés de Jeff Fillion. C'est ça la gang, mais là, c'est rendu un fourre-tout qui englobe l'ancien complotiste qu'on avait pendant la pandémie. Moi, j'ai été tagué de complotiste à tour de bras. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le biais cognitif suivant, c'est coupable par association.
Ben oui.
C'est que tu vas. Tu sais, il y a un clash qui s'opère entre deux individus sur Twitter. Évidemment, après ça, il y a des commentaires. Puis les commentaires, c'est moins raffiné, c'est moins
léché. C'est la taverne.
c'est la taverne, comme Frank ouais. dit. C'est comme dans le temps.
La géométrie variable, mettons.
Exact. Mais là, tu es tagué que, bon, OK, parce qu'il y en a un ou deux dans les gens qui ont commenté, ou des fois 10 ou 15 qui ont agi vraiment en colon. Ah, mais ça, ces gars-là, s'ils ont ça comme auditeur, c'est parce que c'est des colons. Ouais. Je pense que c'est ça qui arrive beaucoup au Québec. Ouais. Tu sais, qu'on a un esprit qui est très moutonnier, qu'on ne veut pas trop déplaire, on est consensuel. Ouais,
c'est... Je suis tellement d'accord. Tu sais, la frilosité, c'est pour ça que moi, l'extrême centre, j'haïs ça, parce que c'est tellement une posture pratique. Là. Tu te positionnes en étant le grand curé là, qui ça m'énerve. Parce que si tu es à l'extrême centre, à qui tu peux débattre? Avec pas personne. Là. Puis toi, tu as la position, tu as la posture morale par excellence. Tu sais, je trouve n'importe quoi. Puis pour le reste, oui, il y a une frilosité. Je pense qu'avec j'apprends pas grand-chose à personne en disant ça, mais avec les médias sociaux, la polarisation est tellement rendue importante. Il y a une démonisation qui vient avec ça aussi. Moi-même, je tombe dans ce piège-là souvent. Puis je me fais faire le coup aussi. Tu sais, moi, j'ai lancé, en tout cas, ça va paraître dans quelques mois, un nouveau média où je fais des discussions sur des droits fondamentaux et autres. Puis j'ai invité Stéphane Enfield, qui est... Ça fait 20 ans que c'est mon chum Enfield. C'est le porte-parole du PQ en matière d'immigration. C'est un gars qui fait ça depuis 32 ans. Il connaît ça sur le bout de ses doigts. Des fois, je suis d'accord avec lui, des fois moins, mais ça reste que c'est un interlocuteur de choix pour parler de ça. Il vient s'asseoir à mon podcast. « Ah ouais, là, le PQ est rendu immigrationniste, puis tati, puis tati. » Si tu n'as même pas écouté, si tu n'as aucune idée de quoi qu'on a parlé, tu sais, ferme donc ta gueule, tu es rendu là. C'est d'espèce de vouloir tout le monde classer, étiqueter. Tu as le droit d'être dans cette case-là, mais tu n'as pas le droit d'être dans telle autre. Tu sais, je veux dire, ceux qui ont vu, vont voir, qu'on jase aujourd'hui, ben ils savent que je ne suis pas à droite puis je ne suis pas d'accord sur un paquet d'affaires et vice-versa. OK, ouais, puis ça fait quoi ça? Ça change quoi?
Il n'y a personne de mort.
Obligé de dire, ah, mais j'invite tout le monde. Je vais m'inviter qui je veux. Tu sais, je veux dire, quand même, je ne suis pas obligé de prendre Patoff le clown pour dire, gars, j'ai eu un clown aussi. Tu sais, c'est pas important. Là. On peut jaser de ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Puis qu'il y a des débats d'idées, ben, par définition, ça prend des gens avec des positions opposées. Puis that's it. Là, je veux dire, c'est le socle même de la démocratie, tant qu'à moi.
Ben, écoute, je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Je suis obligé de te dire que je ne croyais pas que tu allais accepter quand je l'ai fait. J'ai tendance à être cocky naturellement dans la vie. Mais je pense que tout le monde a gagné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a perdu quelque chose? Puis évidemment, on va avoir des commentaires. Hey, vous avez été conciliant avec lui. On pensait que vous alliez... Nous autres, ça, c'est les critiques qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être ça. On a été bonasse. On t'a laissé faire. On t'a laissé parler. T'as dit des enneries. On t'a pas ramassé. C'est tout un peu la même histoire de ce côté-là. Mais en même temps, il faut garder en tête c'est correct d'être civilisé aussi. Là.
Ben, je serai un ambassadeur de votre podcast, les gars. J'ai vraiment eu du fun. Et je trouve que c'est c'est un des très rares ponts qui existe actuellement dans le débat public québécois. Puis, tu vois, juste en jasant, je vais parler juste pour moi, mais on réalise qu'il y a souvent plus de dénominateurs communs que moins. Pas tout le temps.
Tout le temps ça. Hein.
Ben oui.
Ce qui manque avec les réseaux sociaux, c'est souvent ça, c'est ce contact-là réel. C'est facile d'écrire en arrière d'un clavier. En personne, il y en a plus d'infos. Là.
Oui.
Absolument. Ben, écoute, merci d'avoir été là. Puis écoute, si l'occasion se reprête, on te réinvitera peut-être pour parler de tes multiples expéditions. Tu parles dans le livre un moment donné de ton, l'histoire à Guantanamo. Ça, je trouvais ça fascinant, mais là, écoute, on avait juste une heure, on peut pas.
Non, mais si ça vous tente, parce qu'il va y avoir une suite, c'est un livre que j'ai écrit publié l'année passée. Il va y avoir une suite bientôt sur une autre formule, un autre véhicule. Mais si ça vous tente de parler de l'expédition à Guantanamo, je pense que c'est y a du stock. En tout cas, vous en jugerez.
Excellent. Donc, on redonne le titre aux gens, « On nous tuera doucement » de Frédéric Bérard, sous-titré « Chronique sur nos dérives médiatiques, politiques et environnementales » avec une préface de ton ami Denis Lévesque, avec qui tu feras la promotion de ce livre-là, je pense, c'est ce soir. Donc, c'est ça. Merci d'avoir été là, puis on espère que ça a plu aux auditeurs.
Merci, les gars. Puis merci à tous les auditeurs, les auditrices. Puis vous voyez, on n'est pas méchants, on est gentils. Il faut leur écrire des... Comment je dirais... Vous êtes chanceux d'avoir ce genre de podcast-là ouvert comme ça. Merci beaucoup.